Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à la rentrée littéraire de janvier avec les otages de la critique pour parler de 5 des 480 nouveaux romans de cette saison. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, Duel, Nelly Caprielian, Désarrocuptible, Jean-Claude Raspienjas de La Croix et Arnaud Vivian de la revue Charles, de Transfuge et de Regard. Et ces romans, eh bien, c'est Otage de Nina Bouraoui, Brisé en nous la mer gelée d'Éric Orsenna, Vie de Gérard Fulmar de Jean Echenoz, Papa de Régis Geoffrey et Le consentement de Vanessa Springora. Dans le courrier de la semaine, Aurélien Lorléac de Lorient prend la défense de Jean-Philippe Toussaint. Les écrivains écrivent des livres que le masque et la plume critiquent, les auditeurs critiquent les critiques, critiquons les auditeurs qui critiquent les critiques du masque. Oui, je prends la plume pour défendre la clé USB de Jean-Philippe Toussaint et encre sympathique de Patrick Modiano. Salué au masque, mais abattu par les auditeurs. Il s'agit de deux merveilleux livres à taille humaine, propre, ciselé, honnête, sans fioritures. Je viens de découvrir Modiano grâce à toi. Comment ne pas t'écrire pour te remercier, mon masque? Il écrit toujours les mêmes livres, Modiano? Pas de problème, j'ai hâte de m'avaler tous les précédents. PS, c'est sympa Dubois, mais comment le Goncourt a-t-il pu échapper au ghetto intérieur d'Amigorena? Vos critiques ont-ils un avis sur la question? Bah oui, ils l'ont déjà dit à cette tribune. Ils ont beaucoup aimé ce livre de Santiago Amigorena. Laurence Pradoura partage l'avis d'Arnaud Vivian. Surtout, les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. L'histoire est prenante, mais c'est mal écrit au point que ça m'a parfois gêné. Quand je lis, par exemple, page 45, mon père bloqua tel un braque hongrois à l'arrêt. C'est moi qui bloque et je suis d'autant plus déçu que je venais d'acheter le livre de Jean-Luc Coatalem, La part du fils, qui lui est écrit dans une langue magnifique. Ça, c'est chez Stock. Paul Larreia de Pau, lui, est indigné par le commentaire de Nelly Caprielian sur le roman de Jean-Paul Dubois. Ce livre possède les trois ingrédients essentiels du bon roman, une bonne histoire, des personnages consistants et une belle écriture qui rappelle celle des romans de Flaubert. Sacha Pietrokowski vient de refermer La mère à l'envers de Marie Dariussec qui m'a, nous dit-elle, terriblement ennuyé. Oh. Ce livre mélange des univers entre la croisière en bateau caricatural, le quotidien d'une psy magnétiseuse et les migrants. Comme Houellebecq, Marie Dariussec est une écrivaine bien surévaluée. Effet de mode, sans doute. Yann Le Fur de Douarnenez a aimé, malgré la critique acerbe du masque, le roman de Laurent Binet. Dommage seulement que la fin soit ratée. Il est vrai que de conclure une uchronie est souvent le plus difficile. Ce roman demeure cependant une réussite que je recommande fortement pour regarder autrement l'histoire occidentale. Enfin, à propos du roman de Léonora Miano, Rouge impératrice chez Grasset, dont on avait parlé ici, Laurent Fleischer de Paris a été choqué d'entendre Patricia Martin, notre Patricia, dire « Avant qu'un homme puisse écrire des scènes d'amour comme ça, les poules auront des dents. » Cette phrase est sexiste. Pour nous en convaincre, retournons cette phrase dans la voix d'un critique homme et imaginons, mettons Arnaud Vivian ou Frédéric Becbédé, la réaction du public. C'est la crucifixion immédiate, le supplice de la roue, tout nu et tout fouetté. Gilles Renard de Laval pense pour sa part que ce n'est pas en inversant le machisme qu'on devient féministe. Continuez à débattre pour mon plus grand plaisir, mais de grâce, ne prenez plus les poules à partie. Voilà pour le courrier de la semaine. Et on commence avec Otage. Chez Lattès de Nina Bouraoui, l'auteur de La Voyeuse interdite, qui avait eu le prix du livre inter, et de Tous les hommes désirent naturellement savoir, dans ce bref roman tiré d'une pièce de théâtre qui a été créée à la Comédie de Valence avec Anne Benoît et Tommy Luminet, Nina Bouraoui donne la parole à une femme de 53 ans, une femme qui se dit forte, Sylvie Meyer, mère de deux jeunes filles, séparée de son mari depuis un an, et qui travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc où elle dirige, ça j'adore ça, la section des ajustements. La section des ajustements. La Cagex, où le patron lui a demandé de faire des des heures sup et de surveiller les autres salariés, ce qu'elle a accepté, comme d'ailleurs elle n'a pas bronché quand son mari est parti, jusqu'à ce jour où, qu'on ne va pas raconter, après que son patron l'a engueulée et humiliée, elle s'est révoltée et a tout détruit, quel que soit le prix à payer. Arnaud ?
Moi, j'aime beaucoup Nina Bouraoui. Je ne savais pas que c'était finalement un objet dérivé d'une pièce de théâtre. Oui. Ça ne se sent
la
pas
pièce,
du tout.
Non, bien sûr, mais la pièce a précédé le roman.
Oui, mais je ne savais pas. Et vraiment, ça ne se sent pas du tout. En général, c'est assez difficile de traduire une pièce de théâtre en objet romanesque. Mais là, ça marche totalement parce qu'il y a une voix immédiatement qui est trouvée avec la vie de cette femme. Et surtout, je n'aime pas du tout ce titre, Otage. La seule chose que je n'aime pas dans ce livre, finalement, c'est ce titre. Qui laisse présager finalement du pire. C'est pas du tout, même s'il y a évidemment une histoire de prise d'otage à un moment, c'est pas du tout l'essentiel du livre. C'est la vie d'une femme et de son rapport finalement à l'amour.
Pas qu'à l'amour, à la société.
À la société, mais surtout finalement à cette idée de l'amour qu'elle va trouver finalement dans l'emprisonnement. Il y a une forme de beauté là dans sa trajectoire, c'est que elle prend conscience finalement de l'amour qu'elle a pour cet homme qui l'a quitté dans les épreuves qu'elle va rencontrer. Et c'est au moment où elle est enfermée, emprisonnée, qu'elle est finalement le plus libre et la plus amoureuse. Il y a quelque chose de, je te crois là, d'assez important dans ce que raconte Nina Bouraoui, qu'il y a une intelligence de ce que peut être une vie, un destin, qui franchement, alors c'est dit avec une simplicité, presque une pauvreté, on pourrait dire, de langage. La moitié des phrases commence par C.
Je pense que c'est assez
lié à l'oralité de la pièce de théâtre. C'est possible, mais en même temps, dans cette pauvreté qui est aussi la pauvreté de la vie de cette femme, il y a une beauté qui toujours arrive à surgir. Et je crois aussi qu'elle évite les pièges. Il y a un moment, une histoire qu'elle raconte, une histoire de son adolescence, finalement le premier amour de sa vie. Et c'est très bien fait, ça conduit vers quelque part et on est totalement dérouté quand on y arrive. Évidemment, on va pas le raconter, mais je crois qu'elle évite tous les pièges finalement de ce genre de livre engagé, concerné, etc., social, et qu'elle y trouve une véritable beauté.
Tout en étant, à mon avis, plus social que tu ne le dis. Mais Olivia.
Oui, parce que moi, je trouve que c'est un grand roman social, d'abord. C'est une femme maltraitée dans son travail, qui va finir par péter les plombs, et en fait, elle ne sait pas péter les plombs.
Parce qu'elle s'est soumise beaucoup.
Exactement. Et c'est un livre à la fois très singulier, le portrait d'une femme, je trouve, très réussi, mais je trouve que c'est un livre aussi très universel sur les femmes aujourd'hui. Tout ce qu'elle dit de général sur les femmes, et les généralités sont toujours très difficiles, est vrai. C'est un livre sur l'endurance, sur comment une femme, elle a un jour un caillou dans sa chaussure, évidemment c'est une image, et elle dit « j'ai pas le temps de l'enlever », alors elle laisse le caillou, et finalement elle s'habitue à vivre dans la souffrance. C'est un livre, je trouve, sur la vulnérabilité des femmes. Il y a une scène incroyable où elle est dans une voiture avec deux hommes, peu importe qui ils sont, parce qu'il faut pas trop dévoiler du livre, et elle dit qu'elle a peur, et elle dit que c'est ça la grande fragilité des femmes, c'est que si vous êtes dans une voiture avec deux hommes, vous avez peur, parce qu'il y a toujours la possibilité du viol, alors que si vous avez un homme avec deux femmes, il peut pas avoir peur, et que la force des femmes, c'est qu'on peut mépriser les hommes. C'est un livre très violent, je trouve.
Jean-Claude.
Très très beau.
Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein, je suis d'accord vraiment. Il n'y a pas de. C'est pas que sur la condition des femmes d'aujourd'hui. C'est sur l'éternelle condition des femmes. Hein, ça se résume pas à aujourd'hui. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est l'histoire d'une révolte sourde, d'une accumulation. C'est-à-dire son mari, le patron, la faim. Et il y a une révolte sourde, et à un moment, il y a un passage à l'acte. Alors, le passage à l'acte, il est très étrange, très bizarre.
Oui, sauf qu'on ne va pas le raconter.
Non, mais bien sûr que non. Mais il est très feutré, il est très étrange, quoi. Par rapport au titre, moi, j'ai tiqué aussi, mais après, il se justifie complètement. Parce qu'il faut revenir au mot d'otage. C'est quoi être otage? Il y a trois conditions pour être otage. C'est pas comprendre pourquoi on est prisonnier, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi ça tombe sur moi, et c'est son cas. C'est-à-dire, elle comprend pas pourquoi, alors qu'elle est si zélée dans son entreprise, elle est à ce point-là maltraitée par son patron. Pareil pour cet homme qu'elle a aimé, et je raconte pas la fin. Ensuite, il y a toujours la peur d'être... combien de temps ça va durer? combien de temps ? Dire là, c'est un peu sans fin son affaire. Mmh. Et puis troisièmement, est-ce qu'on va pas y passer quoi ? Est-ce qu'on va pas mourir ? C'est toujours les trois craintes des otages. Ça se résume toujours à ça. Donc au fond, ce titre est assez justifié puisque sa condition rejoint celle de tous les otages en général.
Pour un livre dont je rappelle qu'il est bref, hein, oui. Ça explique sa densité. Nelly.
Moi, j'ai pas été absolument convaincue par.
Je sens ça à ton air.
Non, j'ai l'impression que c'était un peu fabriqué, qu'il y était pas. Je sais pas. J'ai eu d'autres textes de Nina Bouraoui, voilà, une décennie, deux décennies, où j'avais l'impression que c'était vraiment peut-être plus quand elle était dans une forme d'autofiction. J'ai l'impression que c'était essentiel pour elle d'écrire. Il y avait vraiment. Là, j'ai un peu l'impression qu'elle se prête à un exercice, mais je la retrouve pas. Alors, je sais pas. Vous avez sans doute raison, mais moi, ça m'a pas du tout touché autant que vous.
C'est Otage, et c'est chez Lattès et c'est Nina Bouraoui, Briser en nous la mer gelée, gros roman de 450 pages qui signe l'entrée chez Gallimard d'Éric Orsenna, prix Goncourt 88 pour l'exposition coloniale et dont l'exergue est emprunté à Kafka. Un livre doit être la hache pour briser en nous la mer gelée. Un roman qui se présente sous la forme d'une longue lettre adressée par l'auteur Gabriel, romancier et ingénieur en hydroélectricité, à une juge aux affaires familiales et à sa greffière. Il veut s'excuser en gros de leur avoir pris tant de temps pour statuer sur son affaire, c'est-à-dire son divorce en octobre 2011 d'avec sa femme Suzanne, vétérinaire, après 4 années d'une folle passion et un mariage célébré par monsieur Bertrand Delanoë soi-même. Dommage, avait conclu la juge, je sentais beaucoup d'amour en vous. Et donc, pour qu'ils se retrouvent, Gabriel et Suzanne, il faudra briser en nous la mer gelée et voyager jusqu'au détroit de Bering. Jean-Claude.
C'est un livre peu déroutant, c'est-à-dire il y a plusieurs livres dans le livre, c'est un petit peu confus. Le fond de tout ça, c'est quand même le début.
Le milieu et la fin.
Le milieu et la fin, c'est ça. D'un amour. Je finis la phrase, c'est d'un amour. Et c'est à quel moment se produit la déchirure et quel est le chemin chaotique qui mène à cette rupture, et surtout qu'on finit par oublier ça. Alors, le chemin que lui prend, justement, est très compliqué, parce que son livre est un mélange de points morts et d'accélération, et qui finit par trouver, en vieux marin qu'il est, qui finit par trouver enfin son rythme de croisière vers la page 100. Les choses commencent un petit peu à s'ordonner, ça va redevenir un tout petit peu tempétueux dans la narration, quand il va repartir sur le Groenland, où là, ça devient vraiment très très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il illustre l'histoire de la mer gelée brisée en nous, tout ça. Au milieu, c'est
au moins, on sait qu'il connaît, hein.
Oui,
il connaît ce dont il parle.
Oui, parce qu'il y a, alors, il y a des choses. Alors, là où c'est déroutant, c'est qu'il y a beaucoup de métaphores d'éclusiers, qui sont métiers, mais du coup, il en abuse un petit
peu. Enfin, le métier du personnage,
hein. Du personnage, oui, mais comme il connaît très très bien le milieu marin et tout ça, donc du coup, il remplit beaucoup avec ses connaissances scientifiques. Ce qui est évidemment très intéressant, c'est la naissance de l'amour. Ce qui est bien, c'est évidemment, c'est du Orsenna, donc ce qui est bien aussi par moments, c'est toute l'ironie, toutes les blagues et tout ça. Et il y a un très beau moment, un bloc gelé là, au milieu du roman, qui est quand il se marie, quand il y a le mariage. Et là, il y a 4 chapitres autour du mariage qui sont vraiment poilants, vraiment bien, qui sont très très bien observés sur les étapes du mariage, sur les réactions des témoins, sur tous ceux qui se mettent en comploter en disant mais combien de temps ça va durer leur affaire, c'est pas possible et tout ça. Et il y a une réflexion comique qui m'a beaucoup amusé, qui est quand on se marie pour la 4e fois, on a plus de cadeaux, c'est-à-dire que les amis ont plus du tout de cadeaux à nous faire, mais qu'ils savent plus du tout quoi offrir. Et il explique quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'un amour est toujours surveillé par les autres. Il est toujours sous surveillance des autres. Et il explique beaucoup ça. Et tout le monde spécule sur comment ça se fait qu'ils sont ensemble, combien de temps ils vont durer ensemble, ça pourra pas durer et tout ça. Donc c'est un livre un petit peu foutraque, mais qui a où on sent quand même le pétillant d'Orsenna, mais c'est pas son meilleur.
Nelly.
Alors là, j'ai trouvé ça mais totalement inintéressant. Mais alors un point. Je crois que j'avais pas lu depuis longtemps du Éric Orsenna. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je trouve qu'en plus c'est un monsieur d'un certain âge. Et je trouve que écrire une histoire d'amour de cette façon, dans des clichés de la comédie du remariage, avec des dialogues qui doivent être prime sautier, drôle.
Bah, c'est peut-être vrai ces remariages. Pourquoi tu dis les clichés? C'est peut-être.
Oui, mais enfin, je pense pour avoir moi-même un certain âge et avoir vécu quelques comédies
et être tragédies remarié du remariage.
enfin, il y a quand même. Enfin, l'amour, ça se passe pas comme ça. Enfin, je trouve j'ai beaucoup de mal à lire enfin, je préfère voir un Lubitsch plutôt que d'avoir un livre qui invente des situations fausses, des dialogues qui sonnent creux, des personnages, la femme doit être absolument impertinente, sans arrêt, 24 heures sur 24, à chaque seconde, elle doit être drôle, mince, merveilleuse, tout simplement parce qu'il l'a choisie, c'est une déesse. Non, voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y connaît rien, il s'y connaît peut-être en mer et en eau, mais en amour, franchement,
pourtant, il passe pour un fin connaisseur de l'amour, Olivia.
Moi, je pense qu'au contraire, c'est un livre très personnel. Je pense qu'il se livre beaucoup. C'est un livre sur un sujet de société. C'est l'amour chez les vieux. Voilà, ça nous guette tous, hein. Non mais
c'est bien résumé. En fait.
Comment est-ce qu'on annonce à ses enfants qu'on va se marier, par exemple, un vrai sujet. Comment est-ce qu'on
quand ils sont encore vivants.
Oui. Comment on fait avec tous les fantômes des ex. Alors lui, il est pour raconter. Moi, je pense que ça, c'est une grave erreur du livre. Après, il écrit vraiment, je pense, au fil de sa vie et de sa plume. Alors, il y a des moments assez drôles, notamment un chapitre sur la redoute. On peut le citer.
Oui, sur le
d'anthologie, où il explique que si vous avez réussi à parler au service après-vente de la redoute, votre mariage va durer. Qu'en fait, c'est une sorte d'indicateur du couple. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cet indicateur-là, personnellement. Donc, on a l'impression que il y croit pas vraiment à son livre. Il écrit, parfois c'est drôle. Tout d'un coup, vous avez une grande digression sur, effectivement, les chauves-souris, parce qu'il a dû s'intéresser aux
choses. C'est un peu ce que faisait Jean d'Ormesson, d'ailleurs.
Oui.
Non, mais il y a des livres où il y avait des digressions constamment, sans forcément suivre un fil.
Donc, c'est méchant pour Jean d'Ormesson.
Oui, il écrit un peu comme il sautille, vous voyez, voilà, comme ça lui vient. Donc c'est assez long, parce que ça lui vient beaucoup. Mais c'est pas déplaisant à lire, mais c'est pas très intéressant non plus.
Ah bah voilà, au fond on est
Arnaud.
D'accord. Ça m'a rappelé un peu, vous savez... C'est dimanche après-midi où vous êtes pas très bien, vous êtes devant France 3 et vous voyez ces publicités pour les conventions obsèques, les prothèses auditives, les biscottes, les biscottes sans sel et les montes-escaliers, effectivement. Ça, c'est un peu le sentiment qu'on a. Je me suis senti très jeune, soudainement. C'est la chose très plaisante du livre, c'est que vous vous sentez très très jeune en le lisant. Là, vous vous dites, ah oui, quand même, le troisième âge, là, c'est encore un peu loin. Je suis pas guetté tout de suite. Ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont, Gallimard n'ayant pas fabriqué le livre à temps, ils m'ont envoyé des feuilles A4 qu'ils avaient photocopiées, reliées avec une spirale en plastique, là, et donc j'avais l'impression de lire le manuscrit de... et donc je disais, bon ben
tu
écoute,
l'as refusé,
là, Eric, si tu pouvais arrêter les placements produits, les placements copains, la poularde chez Passard, il y a un côté placement produit, comme ça, placement copain, le petit chapitre sur Eric Fotorino, voilà, il se fait plaisir, mais bon, on reste quand même très très spectateur. Hein. Si j'étais très méchant, je dirais que ce livre n'a pas simplement brisé la mer gelée en moi, il a brisé tout.
Oh là là. Briser en nous la mer gelée, c'est Eric Orsena, c'est chez Gallimard. Vie de Gérard Fulmard chez Minuit, c'est le nouveau roman de Jean Echenoz, l'auteur de Je m'en vais, prix Goncourt 1999 de Ravel et de 14, un polar dont l'anti-héros et narrateur s'appelle donc Gérard Fulmard, cet ancien steward qui a été licencié, pour une faute d'ailleurs qu'on ne saura jamais exactement, ouais. Décide d'ouvrir, bref, à son domicile de la rue Erlanger, c'est dans le 16e à Paris, le cabinet Fulmard Assistance, dont la compétence englobe tout de la plomberie à la comptabilité, et faute de clients, et après des péripéties que je n'ai pas le temps de raconter, il devient l'homme de main d'un petit parti politique, la FPI, Fédération Populaire Indépendante, qui ressemble à un petit parti extrémiste plutôt à droite. Pour sa première mission, on lui donne une enveloppe de 3000 euros et un pistolet d'alarme à gaz modifié. Mission qu'il juge aussi divertissante, je cite, qu'un pique-nique en station d'épuration ou un week-end sur champ d'épandage. Dans ce roman qui s'ouvre par la chute sur le 16e arrondissement de Paris d'un fragment de satellite soviétique très très ancien, Echenoz rappelle que dans la rue de Fulmard, donc la rue Erlanger, Mike Brandt s'est jeté du 6e étage du numéro 6, très important.
Mais tu racontes les meilleurs gars.
Et au numéro 10, le japonais Issei Sagawa a découpé et consommé une étudiante néerlandaise en littérature comparée. Et on aura même fait un petit détour par l'île de Sulawesi où un requin dévore la fille de la secrétaire nationale de la FPI. Bref, c'est noir, évidemment, avec tout l'humour qu'on connaît. À Jean Echenoz, maintenant que j'ai tout résumé, vous n'avez plus grand-chose à dire, on va commencer avec Nelly.
C'est vachement intéressant, je trouve, ce qui devient, en fait, Jean Echenoz. Je trouve qu'il a 60
ans. C'est imprévisible, parce que les derniers...
C'est totalement imprévisible. Il adore les vies, parce que, d'abord, j'adore ce titre, qui est une référence aux vies des saints, des saintes, qui est une référence à une vie de Maupassant. Et là, c'est la déconnade absolue. Il ajoute le nom de Gérard Fulmard, qui est quand même très, très rigolo, assez kitsch.
Ça m'a fait penser à l'oiseau, au fulmar, sans D.
Oui, oui, bien sûr, je ne savais pas qu'il existait. Voilà. Merci Jérôme de... ça m'a pas du tout fait penser à ça. Enfin bref. Et je suis très intéressée parce que moi j'avais adoré Ravel, j'avais adoré sa trilogie Ravel, Courir et des éclairs qui était à chaque fois.
Même 14, ce petit livre sur la Grande Guerre qui était.
Extraordinaire.
Et là, très bref et là on sent qu'en vieillissant, lui aussi, finalement, c'est une thématique, il devient, mais totalement punk, il en a plus rien à foutre et il a juste envie de se marrer. Et je trouve que le livre, finalement, trace une espèce de leçon de vie qui est qu'on ne contrôle rien. Dans la vie, on croit contrôler, on ne contrôle rien. Donc en effet, on se prend des boulons géants sur la gueule quand on va au supermarché. On se prend Mike Brandt qui se suicide sur nous.
Enfin qui n'essaye pas, qui se suicide.
Voilà, c'est et je trouve que c'est quasiment
chanteur de charme à jabot, il l'appelle chanteur.
Non mais c'est complètement politique quoi. C'est-à-dire la politique n'est pas vraiment à prendre au sérieux. Ils sont tous plus absurdes les uns que les autres. L'argent, c'est pareil. Avoir une position sociale dans la vie, c'est grotesque. Enfin, il y a comme ça, il dit dynamite absolument tout. Et je trouve que c'est le livre punk qui doit rentrer, écrit à 72 ans par Jean Echenoz.
Tout en respectant un peu quand même les codes, même pour s'en moquer, du polar. Hein.
Alors, il détourne les codes. Alors, ce qu'il respecte, c'est les codes d'une écriture minuit. Voilà, je trouve que pour moi, là, c'est le catalogue du style minuit, mais à fond la caisse.
Arnaud ?
Oui, tu parlais de roman noir. Il y a une référence assez évidente à Manchette et à Eugène Tarpon, au personnage de Eugène Tarpon qui devient détective exactement comme Fulmar. La différence, c'est que Eugène Tarpon est à la fois très mélancolique et très intelligent, ce qui est pas du tout le cas de Fulmar. C'est quand même ça le point déterminant de Fulmar, c'est qu'il est complètement idiot.
Et puis il tombe dans les pièges, mais alors là, à bras raccourcis.
Et ce personnage d'idiot, en fait, un grand personnage d'idiot, c'est très difficile à faire, mais là, il est parfaitement réussi. Et c'est vrai que il y a un dépassement tout le temps du projet, c'est qu'on pense que ça va être l'histoire de Fulma, mais finalement ça devient l'histoire d'une rue. C'est ça le projet caché. Il y a une technique romanesque absolue. Il se dit ok, je peux tout faire. Et ce qui est extraordinaire avec cette écriture romanesque là, c'est que on s'imagine pas que ça va devenir une série sur Netflix, contrairement à tant d'autres livres qu'on peut lire. Il y a rien qui soit possible à adapter.
Non, mais ça pourrait devenir un film belge.
Oui.
Mais on est dans la littérature.
Encore ce truc.
On est dans une littérature pure qui ne renvoie qu'à elle-même. Je veux dire, décrire une moustache à partir des catégories kantiennes. Oui. Voilà, c'est juste quand même.
C'est la moustache du secrétaire général
de funambulisme absolu. Et c'est vrai que quand Mike Brandt vient débouler dans cette histoire, on n'en revient pas. Il y a une espèce de coupure soudainement. Et là, on se dit, mais le projet est absolument merveilleux. Je ne l'avais pas compris parce que on avance totalement à tâtons soi-même. Le lecteur est totalement désorienté dans cette histoire et jusqu'à la fin. Oui. Plus quand même l'idée que ce parti politique quand même fait un peu penser, pas totalement, mais un peu penser au Rassemblement National. Hein. Oui. Il y a quand même des liens assez évidents, une manière de se moquer aussi.
Avec la fille qui ne veut pas y aller, mais qui y va.
Je pense pas qu'il soit devenu punk, contrairement à ce que dit Nelly. Je pense qu'il est de plus en plus exigeant dans sa capacité à étonner et à faire rire. C'est qu'il a retrouvé sa veine comique qu'il avait quand même abandonnée au moment de... Moi, j'adore Ravel, enfin voilà, les trois petites biographies.
Qui était plus mélancolique.
Mais qui était beaucoup moins drôle. Et soudainement, là, depuis deux romans, il est revenu au comique qui était celui des Grandes Blondes, par exemple.
Voilà, des premiers... Polar minuit de Echenoz. Cela dit, je trouve que c'est remarquablement écrit en même temps. Chaque phrase est un petit bijou. Hein.
Et des descriptions absolument magnifiques par ailleurs de Paris qui sont absolument merveilleuses.
Olivia.
Oui, c'est la langue qui est géniale parce que ces gens, quand même, on s'en fout complètement. Décrire Gérard est génial. Je ressemble à n'importe qui en moins bien.
Il est en léger surpoids. Il nous le répète plusieurs fois.
Donc Gérard devient détective. Gérard reçoit son premier client et son bic ne marche pas.
Il n'est pas détective. Il est
enquêteur.
C'est un cabinet.
Il est un cabinet
d'assistance.
Donc il est rien. Donc il a le gars en face de lui, la femme a disparu, et son bic est sec. Donc il essaye de prendre un air pénétré du gars qui a même pas besoin de prendre des notes pour comprendre. La scène est vraiment géniale. Après, cette phrase qui m'a enchantée. La moustache de Franck Terraille ne relève pas de l'acère torique, mais de la peau dictique. Alors, est-ce que, par exemple, ta moustache, elle relève de quoi, Arnaud?
Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'en passer par les catégories anciennes, pour parler d'une moustache, là, il y a une espèce de tour de force.
C'est vraiment formidable. Magnifique. Et puis, il y a la narration où, tout d'un coup, on est dans une voiture, il y a un trajet en voiture, on doit partir du front de Seine pour aller à Rueil-Malmaison. Et puis, il vous dit tout simplement, écoutez, le trajet n'est pas très intéressant. on l'a déjà beaucoup raconté, en plus.
Oui, puis en plus, il intervient dans son roman pour dire, bon, maintenant, vous allez voir, je vais mettre un petit peu d'exotisme quand même.
Donc, je vais en profiter pour vous tirer le portrait de madame, je sais plus comment. Et puis, il y a des phrases aussi quand même poétiques. Il y a une héroïne qui est comme ça, très sûre d'elle et dominatrice, mais elle a le vertige. Et elle dit, elle envie ses nuages de ne pas être sensible au vertige. Et après, le narrateur rajoute toujours son grain de sel. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que les nuages, ils ont le vertige.
Il y a un côté Raymond Queneau aussi, quand même. Ouais. C'est aussi un enfant de Queneau.
Jean-Claude.
C'est absolument formidable à toutes les phrases. Alors, c'est marrant parce que je vous écoute et on fait assaut de citations ou de références. Et moi, j'en avais plein en lisant ça. Je me disais, mais il fait son Modiano quand il traverse Paris. C'est-à-dire que la rue Erlanger, on dirait à certains moments du Modiano. La description en une demi-page de la porte de Bercy, de cet entre-là d'autoroute, ce qu'il en fait en une demi-page, c'est un endroit que je connais bien, franchement, je me suis dit, ben voilà, il y a du Truffaut, il y a du Tarantino avec les deux gardes du corps vietnamiens qui s'appellent Apollodore et Hermosthène Nguyen.
Sans qu'il y ait du tout la violence de Tarantino,
non,
parce que c'est pas de là. Oui,
Non, mais on n'est pas loin parfois, mais la façon dont ils refont leur partie de Go mythique du 19e siècle est quand même très impressionnante. À certains moments, le fameux Gérard Fulmar, moi, ça me faisait penser à un épisode des Bronzés avec Jean-Claude Duss, mais qui ferait cavalier seul, voilà, qui se débrouillerait tout seul. Il y a du OSS 117, c'est-à-dire que quand on est dans les bunkers hyper surveillés de la Villa Montmorency au fond du 16e arrondissement, où tout est hyper, hyper, hyper surveillé,
ah oui,
ça ressemble à du OSS 117, et surtout dans les réflexions qu'il a et ce qu'il décrit. Il y a un côté SAS, c'est-à-dire qu'à un moment, sans raconter les choses, mais à un moment, il y a quand même quelque chose d'assez violent qui se passe à l'intérieur d'une IRM, ça ressemble à du SAS, le mode exécutoire ressemble à du SAS. Tout est comme ça. Et en effet, enfin, vous parliez du style, c'est vrai que c'est un bonheur à chaque phrase. Et alors, il lance des personnages, tu sais plus ce qu'ils deviennent. Il y a une fameuse Léa Martineau.
Sauf qu'ils reviennent tous à un moment donné, hein.
Bah, Léa Martineau, moi, j'ai eu l'impression de pas la retrouver après, j'ai pas recherché, mais à un moment, elle est dans une voiture.
Elle va revenir.
Bah, tant mieux pour elle. À un moment, il annonce une scène de sexe qui va être, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle ne viendra jamais. Bon. Et tout est comme ça. Et c'est très, très, très marrant, quoi. Et c'est, voilà.
Vie de Gérard Fulmar. C'est chez Minuit, le nouveau Jean Echenoz, sur lequel vous allez forcément vous jeter. Papa. Un livre très étrange de Régis Jauffray, qui lui nous avait plutôt habitué à la causticité, à la méchanceté, et qui là, ben, il baisse un peu le masque, c'est au seuil, c'est un roman plutôt, c'est un récit autobiographique qui devient un roman et qui tranche donc avec la production de l'auteur, je le rappelle, de Microfiction et d'Asile de Fous. Sans parler de ses livres sur DSK ou sur le banquier Edward Stern. Le livre s'ouvre par des images d'archives saisissantes qu'on trouve d'ailleurs sur la jaquette du livre. 7 secondes exactement que Régis Jauffray aperçoit le 19 septembre 2018 en visionnant un documentaire sur la police de Vichy. Qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit son père, Alfred Jauffray, qui sort terrorisé, menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais du 4 rue Marius Jauffray, qui est le vrai aïeul de Régis Jauffray, cette maison, cet immeuble où il a passé toute son enfance. Et des images tournées en 1943, non seulement, écrit Jauffray, mon père n'a de sa vie jamais parlé de cet incident, mais je n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. Moi, le conteur, le raconteur, l'inventeur de destinée, il me semble soudain avoir été conçu par un personnage de roman. Et donc, petit à petit, il va évoquer ce... À mon avis, cette scène, mais c'est mon sentiment personnel de qui est vrai, hein, on saura pourquoi et comment elle a eu lieu, masque en fait un vrai portrait de cet homme qui était à la fois sourd, bipolaire, totalement coupé du réel et avec qui il n'a jamais eu de relation affective forte. Et c'est un peu un livre pour moi du regret, plus que l'affaire qui sert de point de départ. Jean-Claude.
Oui, c'est même un livre assez poignant, enfin, dans le fond. Alors, c'est vrai qu'on était passé du cynisme.
À la fin, c'est un cri d'amour, même.
Oui, absolument.
À ce
père. Voilà, c'est ça. À la fin,
je t'aime, je veux t'aimer.
Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'énigme, le mystère de ces images, l'énigme de ce père. Et surtout, cette énigme-là, effectivement, a de quoi titiller le romancier. Et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, il met une exergue au début, en disant « la réalité justifie la fiction ». C'est-à-dire que son père, c'est quelqu'un d'extrêmement gris. Enfin, son nom serait personne, que ça serait son véritable état civil. Enfin, ce type n'existe nulle part. On sait même pas trop comment il s'est marié. Il a un emploi qui lui
Après, il le raconte parce qu'il assiste.
Mais alors, on parlait tout à l'heure.
Il réinvente plutôt.
Oui, mais là, on parlait de l'amour. Là, on va pas trouver son contentement dans la description de ce qui a pu unir ces deux êtres-là. Dans le milieu social, c'est un cousin qui l'embauche vaguement, qui ensuite va le déclasser.
Ah, c'est très important qu'il va l'engager dans une entreprise de carénage à Marseille.
Bien sûr, mais qui va le déclasser. Enfin, ce type traîne une sorte de tristesse permanente, est en contact en réalité avec personne. Il n'a pas d'amis.
Il est sourd, totalement sourd.
Il n'a pas de rêve, il n'a pas de désir.
Et dépressif.
Oui, il est dépressif et il s'occupe pas. Il est sous neuroleptique. Enfin, il s'occupe pas de son fils. Et donc du coup, ce qu'explique très bien Ruth Geoffrey, c'est qu'au fond, un fils, il est là pour combler le vide de la mémoire familiale. Et comme son père n'imprime pas, quoi, rien n'imprime autour de ce personnage.
Il les réinvente. Donc il le réinvente.
C'est ça. Alors il le réinvente, c'est ça. Donc il se saisit de cette pâte à modeler pour en faire un personnage de fiction. Et quand je dis fiction, il examine les deux côtés. C'est-à-dire où son père a été un salaud, et du coup il raconte l'histoire de ce salaud qui a traîné un secret dont il a jamais parlé à personne. Et ça devient très impressionnant parce que ça paraît possible. Et il en fait à la fin un portrait absolument magnifique puisqu'il mêle ses propres souvenirs en permanence à ce qu'il aurait aimé que ses souvenirs
Oui, il va même jusqu'à raconter ce qu'était son père avant sa naissance, et même il va raconter sa propre naissance, puisqu'il assiste, si j'ose dire, à sa venue
Et alors, ce qu'il y a de très touchant, c'est qu'en effet, à un moment, il parle de lui-même et il dit « Je n'ai peut-être écrit tout au long de ma vie que le livre sans fin de tout ce que nous nous sommes jamais dit. Au fond, ce livre, c'est comme si le fils enfantait le père. » Et c'est très, très émouvant, très beau.
Nelly.
Oui, c'est comme s'il se réappropriait en effet ce père qui lui a échappé toute sa vie.
Dont il était, il faut le rappeler, le fils unique.
Oui, en plus. Et c'est vrai qu'on comprend ça à la fin, en fait. C'est vrai que c'est un cheminement. Nous aussi, on chemine en lisant le livre. Moi, j'ai adoré la forme qui aurait pu sombrer dans du Régis Geoffrey. Moi, je suis pas complètement d'accord, Jérôme, quand tu dis c'est pas du tout du Régis Geoffrey. Ah, c'est vrai qu'il y a parfois...
Sauf que c'est des mots que je n'ai jamais entendus sous sa plume.
Non. Mais parfois, on sent qu'il va démarrer une micro-fiction. Voilà, surtout la première partie avec ses parents, le voyage en Italie, etc., le mariage, etc. Là, tu sens que ça peut partir en micro-fiction. Et on sent presque que son écriture, comme ça, la Geoffrey, partant dans des micro-fictions très sombres, très caustiques, dynamitant toujours la famille, d'ailleurs. En tout cas, je me rappelle, ça j'en suis sûre, le premier volume de micro-fiction, c'était « Les enfants mouraient ». Enfin, tout était atroce dans les familles. Et là, on sent... par cette forme qu'il met en place, qui est ce dialogue. Il y a un dialogue constant. Alors, est-ce que c'est entre l'écrivain qui écrit sur son père et sur sa famille et le fils qui se souvient? Voilà, moi, j'ai pas vraiment réussi à comprendre qui parlait. À mon sens, c'est ça. Il y a toujours une espèce d'instance de surmoi qui l'empêche de faire son Régis Geoffrey, de partir dans des micro-fictions, ou qui l'empêche d'être trop dans le pathos. Parce que c'est vrai qu'à nous entendre, on pourrait voir que c'est ultra sentimental, c'est quand même très littéraire.
La fin est très sentimentale.
La fin, en effet, c'est un cri d'amour. Oui, bien sûr.
Ce qui est une scène qu'on va pas raconter, mais qui montre à quel point c'est un Régis Geoffrey. J'avais oublié à quel point il était marseillais.
Oui, bien sûr.
J'ai même oublié qu'il avait été un enfant. C'est te dire. Olivia.
Moi, je trouve que tout est dans le titre de papa.
Bah oui.
Qui m'a beaucoup énervée au début, parce que je déteste l'utilisation de papa et de maman dans le domaine public, comme on fait aujourd'hui. Papa et maman, c'est dans la famille et pas au dehors. Bah, c'est grotesque, ou même à l'école, tu dis l'heure des mamans. Non, c'est l'heure des mères. D'ailleurs, c'est plutôt l'heure des femmes qui gardent les enfants. Ça serait plus juste. Non, j'aime pas maman. C'est toi avec ton enfant. Je trouve que c'est ridicule. C'est un truc de mièvrerie de l'époque. Fermez la parenthèse. Là, c'est utilisé.
Mais c'est une colère
Oui, ça m'énerve, les mamans, on n'arrête pas de te dire, vous êtes la maman de...
La colère me paraît excessive, mais...
Ça et les rillettes du Mans, on n'en peut plus.
Les mamans,
Et les rillettes de maman.
Non, parce qu'il y a un truc pour culpabiliser les femmes derrière là-dessous, je pense.
Oh!
Oui, je te jure. Si, pour culpabiliser les mères, bref. Je vois qu'il y a une dame qui est d'accord avec moi. Papa, parce que là, c'est vraiment le livre d'un petit garçon qui cherche son père, désespérément. Il dit, cette phrase très belle, il dit, c'était pas un papa, c'était de la dentelle de papa.
La dentelle de papa, oui.
Avec des fils, avec de l'absence autour. Et ce qui est très intéressant dans, je trouve, le processus de fabrication du roman, c'est que Régis Joffray convoque l'écrivain qu'il est devenu et lui demande de réparer cette absence. Et la question, plus que pourquoi mon père a été arrêté par la Gestapo, c'est est-ce que l'écrivain va réussir à réparer cette absence? Et il y a un moment, une scène, où il dit « ma mère part s'occuper du fils de ma sœur ». Et là, ce jour-là, mon père a été un vrai père. Et c'est sublime. Parce qu'en fait, oui, le romancier peut un peu réparer l'absence d'un père.
Arnaud.
C'est surtout un grand éloge, un hommage finalement à la littérature, beaucoup plus qu'à son père. Mmh. C'est la littérature qui lui permet de sauver son père. Puisqu'en fait, il n'y pensait plus avant de voir, de tomber par hasard sur ce documentaire.
Sur ces images, il y a deux ans.
Il n'avait tout simplement plus aucune pensée de son père. Et il en avait fait le deuil, parce qu'il était mort en plus.
En 87.
Voilà, assez longtemps. Et donc il en avait totalement fait le deuil. Et soudainement, ce qu'il découvre, c'est le pouvoir de la littérature pour ressusciter cette figure paternelle dont il ne gardait pas le meilleur des souvenirs. Là, c'est vraiment... on voit l'écrivain se réjouir d'avoir les outils, finalement, pour réparer.
D'autant c'est qu'il utilisait plutôt ses outils pour assassiner,
jusque-là,
pour ressusciter.
Oui.
Hein.
Oui, et c'est vrai que cette causticité de Joffray, elle n'est pas toujours agréable. C'est vrai qu'ici, elle est comme en bémol. Elle n'a pas disparu totalement. Il reste bien, quand même, de la causticité dans ce qu'il écrit.
De l'humour
aussi.
Ce qu'il
pense, oui, mais... avec en même temps donc une invention formelle, c'est-à-dire un usage du tiré qui ouvre normalement les dialogues, qui est un peu perturbant, qui a donné le sentiment à Nelly qu'il y avait un dialogue entre le romancier et son double, etc. Je ne crois pas du tout que ça soit ça. C'est vraiment une invention qui donne un rythme au texte, qui lui donne une... Ah, c'est très difficile à expliquer, c'est très perturbant, mais c'est vraiment une
d'autant
invention.
D'autant que vous avez remarqué que c'est un livre très peu ponctué, il supprime le plus de virgules possible, et on a des phrases qui sont un peu comme époumonées. Enfin, j'ai l'impression que il y a une ponctuation minimale.
Et très particulière, avec l'usage de tirets.
Oui, c'est tirets, là, qui est vraiment... C'est une invention, et moi, j'aime bien quand les gens inventent des ponctuations, en fait.
Papa, Régis Joffray, c'est au seuil. Enfin, pour finir cette émission, un livre dont il ne va pas être facile forcément de parler, c'est Le Consentement chez Grasset, le premier livre d'une éditrice qui vient d'ailleurs d'être nommée à la tête de Julliard et qui s'appelle Vanessa Springora. Elle raconte comment, donc elle a aujourd'hui quoi, 45 ans à peu près, elle raconte comment elle est devenue l'amante de G. C'est Gabriel Matzneff, l'auteur des moins de 16 ans. C'était en 1986, elle avait 13 ans. Lui, presque 50, et elle dit aujourd'hui qu'elle a été victime d'une triple prédation sexuelle, littéraire et psychique. Un père aux abonnés absents, une mère qui travaillait dans l'édition, explique selon elle comment elle a cédé, je cite, parce qu'il faut la citer, au charisme de cet homme, au faux air de bonze, et comment elle est tombée amoureuse de lui. Dans la première scène du livre, la mère et sa fille se rendent à un dîner très intello, très parisien, où se trouve Matzneff, après lequel la mère lui propose de raccompagner l'écrivain en voiture qui s'assied à côté de Vanessa. Et après cette première rencontre, il lui écrit des lettres, l'attend chaque jour à la sortie du collège, et elle écrit qu'elle s'est donnée à lui par consentement, d'où le titre du livre, une relation qui, je le rappelle, tombait déjà sous le coup de la loi. Mais dit encore Vanessa, le statut d'écrivain a protégé ce prédateur depuis tant d'années, écrit-elle en préambule. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, jusqu'au jour où la solution se présente enfin comme une évidence, prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Et donc, 30 ans après les faits, Olivia.
J'ai trouvé que c'était un livre admirable, très très intelligent, avec beaucoup de distance, très honnête et donc très déchirant. Parce que vous voyez quelque chose de très compliqué. Elle fait d'ailleurs très bien la différence avec le viol. Si vous êtes violé, vous savez que vous avez été violé. Il n'y a pas de débat possible. Alors que là, c'est un abus. Et elle explique très bien que pendant des années, elle ne pouvait pas se considérer comme la victime de cet homme, puisqu'elle avait été parfaitement consentante à l'époque. Alors, le problème, c'est que c'est donc l'histoire d'une proie, une petite fille...
Enfin, le premier problème, c'est qu'elle avait 13 ans.
C'est qu'elle a 13 ans, ah oui. Et un homme qui en a 50. Alors, parfois, au début de l'histoire, Il y a des gens dans son entourage qui s'interrogent sur le fait qu'un homme de 50 ans, est-ce qu'il devrait être avec une fille de 14 ans ? Mais jamais personne, parce que c'est aussi le procès d'une époque, ne pose la question, est-ce que c'est normal qu'une fille de 14 ans soit avec un homme de 50 ans ? Elle raconte très bien comment elle était la proie idéale. C'est une petite fille dont le père effectivement avait disparu, et le père en plus n'avait jamais considéré sa fille comme une enfant. Il y a une scène terrible avec le père où il lui offre un camion de camping-car de Barbie. Donc elle joue avec Barbie, avec Ken, elle les habille, elle les déshabille comme toutes les petites filles, et le père arrive et la petite fille a 8 ans et lui dit « Alors, ça baise ?» Voilà. Donc c'est une petite fille qui a jamais considéré comme une petite fille, et qui va tomber folle amoureuse de cet écrivain. Et personne ne va lui dire « Non, tu as le droit de l'aimer, mais tu n'as pas le droit d'avoir une histoire avec cet homme. » Et elle raconte très très bien comment cet homme, lui, il utilise cette petite fille pour satisfaire ses pulsions sexuelles et littéraires. Parce qu'à chaque fois qu'elle lui dit que ça ne va pas, il lui dit « Mais attention, je suis un grand écrivain. »
Elle apparaît dans tous les livres de l'époque.
Et elle apparaît aujourd'hui dans tous les sites sur des photos qui ont été prises d'elle à l'époque. C'est un livre très très fort sur l'abus.
Arnaud ?
Bon, d'abord, il y a une phrase de Jean Paulhan que j'aime beaucoup. C'est à propos de, il dit ça à propos de Félix Fénéon qui est... Il y a une grande expo, il est revenu un petit peu à la mode, tant mieux pour lui, Félix Fénéon. Dans ce texte, il dit « Je voudrais risquer une hypothèse, c'est que la tâche du critique est peut-être de critiquer. » Ce qui veut dire une chose, c'est que moi, je ne suis pas juge d'instruction, et je n'ai pas l'intention de devenir. Je reste critique littéraire. Donc, c'est d'abord un livre qui m'est proposé. Je pense toujours à ce que disait Christine Angot à propos de l'inceste, et d'ailleurs ce qu'elle avait écrit dans l'inceste, et répété après, lors de sa promotion. Elle disait toujours, dans ses mots, hein, je la cite, « Je n'ai pas écrit une merde de témoignage ». Elle voulait dire par là qu'elle faisait de la littérature. On n'a jamais entendu Christine Angot témoigner dans un dossier sur l'inceste, que ça soit à la télévision ou dans les magazines.
Et qu'est-ce que tu veux dire par là à propos
Je veux dire que ce livre a une tentation d'être un objet littéraire et qu'il reste un témoignage. Il n'arrive pas à dépasser c'est d'autant plus dommage que, au-delà de ce qu'il a raconté, et encore une fois, si vous voulez, il y a eu une époque où on préférait la liberté à la sécurité, et maintenant c'est un peu l'inverse, mais c'est comme ça, c'est des changements de paradigme qui sont des changements d'époque. Mais ce qui me semble le point important, c'est que moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, je vais vous dire, c'est qu'il y a une description de la vie littéraire dans les années 80, qui est tout à fait intéressante, où on croise Émile Cioran, parce que quand même, lorsqu'elle a son chagrin d'amour, hein, ouais, puisque Gabriel Mazneff la quitte, eh bien, vers qui elle se tourne ? Émile Cioran. Bah, quand même, vous voyez, ça fait des souvenirs, et d'ailleurs, ça fait un chapitre plutôt intéressant dans le livre. On croise Jean-Didier Wolfrom, qui était au Masque et la Plume aussi, qui a un rôle tout à fait intéressant. Je crois qu'il y avait un potentiel vraiment pour totalement se libérer de cette histoire en la transformant, parce que le chant contre chant, on en avait besoin en fait, que quelqu'un, parce que elle n'est pas la seule, Gabriel Mazneff, des jeunes filles, il en a celui énormément. On avait besoin de ce contre-chant, mais il aurait fallu qu'il soit plus littéraire.
Jean-Claude ?
Ce qui nous est donné à lire, c'est pas que un précis de pédophilie, c'est la gloriole permanente
c'est
publique.
Mais non, c'est pas un précis de pédophilie.
Mais si, parce que ce qu'elle raconte, la façon dont Mazneff la traite, il y a quelque chose d'extrêmement précis dans cette description, et je rejoins tout à fait Olivia dans ce que tu dis. C'est-à-dire que je trouve que c'est un livre très important dans ce qu'elle décrit de la façon dont ce type de prédateur s'y prend pour prendre sa proie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la description des méthodes de l'ogre par la proie elle-même. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est... Alors ça, tu l'as dit, Olivia, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est à l'égard de toi, c'est cette gloriole permanente dans laquelle on a enfermé Mazneff, on t'a la glorifié. Et moi, je ségrais à Vanessa Springora de faire revenir la figure de Denise Bombardier, qui était la seule à l'époque...
Sur le plateau d'apostrophe, il faut le rappeler, qui est québécoise, voilà. et qui a été vouée aux gémonies par tout le milieu littéraire, sur ce plateau, expliquer... Voilà. En présence d'ailleurs de Gabriel Mazneff, que la loi interdisait dans son pays que des agissements pareils soient autorisés.
Et elle a traîné ce charroi d'insultes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est passée pour une sorte de puritaine réactionnaire québécoise complètement demeurée. Ce qu'on découvre dans le livre, c'est que le pire dans cette affaire, c'est qu'elle a très exactement ce soir-là, en 4 minutes, dénoncé ce que raconte et décrit Vanessa Springora, l'impunité du pédophile. artiste, la flétrissure de ses victimes et comment se sortir de l'emprise d'un prédateur. Et par ailleurs, tu parlais de la vie intellectuelle, ce qui est très impressionnant, parce que le milieu intellectuel, il est bien aussi, le milieu médiatique, il est bien parce qu'il est tout le temps amnésique. C'est-à-dire que oui, les époques changent, mais la mémoire, elle retient rien. Ce qu'elle raconte de la Tribune Libre qui est passée dans le Monde et de tous les intellectuels
qui avaient signé,
qui était une pétition d'ailleurs,
qui avait une pétition, absolument, qui était une pétition. Et ce qui est très intéressant par rapport à l'époque, c'est qu'on va retrouver les mêmes.
Enfin, une pétition pour défendre.
Pour défendre la pédophilie.
La liberté.
Ouais, oui, enfin,
d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs.
Oui, non, mais c'est ça. Et en plus, on découvre, parce qu'évidemment, ces tribunes libres avaient été rédigées par Matzneff lui-même. Mais ce qui est très intéressant par rapport à la vie intellectuelle, c'est que c'est les mêmes qui vont défendre avec la même ardeur l'arrivée de l'imam Khomeini, par exemple. C'est-à-dire, cette sorte d'aveuglement permanent et puis d'imposer son point de vue.
Mais cette peinture de ce Nelly. Milieu très au nom de la liberté, est-ce qu'on comprend, comme disait Arnaud, enfin moi aussi je suis pour plutôt une vie faite de liberté que d'interdit, de sécurité, mais en même temps là où ça quand ça touche des enfants, c'est un peu la limite. Et c'est vrai que Matzneff, moi ça me touchait, un peu beaucoup, voire carrément, mais moi c'est vrai que ça me choquait toujours de le voir pérorer à apostrophe quand j'étais moi-même petite. Et cette peinture d'un milieu rejoint là où elle me semble vraie, et on voit qu'il y a des voix qui s'élèvent, rejoint celle que faisait aussi Eva Ionesco dans son livre Innocence. Qu'en effet, ça n'est pas Christine Angot, c'est pas très littéraire, mais je trouve que c'est peut-être ce qui fait la force aussi de ce que je n'appellerais pas un témoignage, mais un récit.
Oui.
Et ce qui fait une force comme ça glaçante, parce qu'elle a un style, et un style totalement assez froid, assez factuel, qui fait qu'on comprend ce qu'est la nature du consentement. Le titre est très important pour ce livre. C'est quoi le consentement quand une jeune fille a 13-14 ans? Parce que ce que vont dire les Matzneff et autres pédophiles, ça va être « mais enfin, elle était amoureuse de moi ». C'est quoi le consentement quand on a 13 ans? Elle le montre très bien, comme disait Olivia, plus de père, un désir de séduire, un désir de plaire, un homme plus vieux, un désir d'être protégé, un désir d'être reconnu par une figure paternelle. Et lui va s'engouffrer dedans, il lui écrit sans cesse, donc il commence aussi à lui faire une cour extrêmement insistante, et elle va tomber dans le piège. Je trouve que cette notion comme ça de ce qu'on appelle depuis MeToo,
la
zone grise...
Il l'oblige à répondre, d'ailleurs. Il a des preuves.
Ce qui m'a fasciné le plus dans ce livre, et je trouve que c'est assez rare, qu'une ancienne petite fille, jeune fille, qui a subi cette forme d'abus, en parle.
Voilà. Et puis qu'elles disent tous sans violence, parce qu'on pourrait imaginer que 30 ans après,
c'est sans violence.
Elle dit tous, c'est-à-dire y compris le fait qu'elle l'a quitté par jalousie, parce qu'il allait voir des petits garçons en Thaïlande.
Parce qu'elle a beaucoup de distance. On voit qu'elle a énormément réfléchi sur ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que c'est pas un témoignage du tout, que c'est un vrai livre pensé, construit, réfléchi, et je trouve en plus joliment écrit et très très intelligemment pensé.
C'est donc Le Consentement, c'est chez Grasset et c'est signé Vanessa Springora. Allez, maintenant, les conseils dans ces 480 romans. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à nos auditeurs?
C'est 481.
Ah oui, excuse-moi, je suis désolé. Oui. Même peut-être deux. 482.
Oui, j'ai oublié.
Nelly, ton conseil.
Alors, j'ai adoré le livre de Constance Debray, qui s'appelle Love Me Tender, chez
Flammarion. Dont nous allons
Flammarion.
Parler dans le prochain masque littéraire.
Voilà, où je suis ravie. Oui. Normalement, je suis invitée à ce masque.
Oui, tu es invitée.
Et vraiment, ça a été une claque. Je trouve qu'elle a une écriture incroyable.
Alors, c'est chez Flammarion, je précise.
C'est chez Flammarion, oui. Elle a publié son premier chez
Après
Stop,
le
Playboy, il y a deux ans. Et là, elle raconte comment son ex-mari l'a privée de son fils, a décidé qu'elle ne verrait plus son fils. Elle raconte la lenteur de la justice. Enfin, c'est un récit complètement glaçant.
Fais-nous juste
glaçant.
Un teasing, parce qu'on va quand même en reparler dans un mois. Bon. Donc, je ne vais pas non plus tout déflorer.
Mais je pense que c'est mon livre préféré de la rentrée.
Le conseil de Jean-Claude.
Alors moi, c'est pas un livre de la rentrée, c'est un rattrapage.
Comment ça?
Non.
Ah, tu joues pas du jeu alors?
C'était pas écrit sur ma feuille, sur mon plan de vol, il y avait pas écrit, il faut faire des romans de la rentrée.
C'était
une recommandation, donc je fais une recommandation, donc je rattrape un livre qui est passé inaperçu, mais il est d'autant plus passé inaperçu que c'est une réédition de 2004, tu vois. C'est une réédition, oui, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on l'a réédité. C'est parce qu'il était drôlement bien. C'est Le Château absolu de Xavier Patier. Xavier Patier a été, je ne sais plus quel était son titre.
Il a été administrateur de Chambord.
Administrateur de Chambord, c'est ça. Et donc, il tenait un carnet, ça a duré 3 ans.
Il a vécu au château pendant...
Il a vécu au château, voilà, c'est ça, pendant 3 ans. Et il tenait des carnets et il a raconté dans un très très beau livre qui s'appelle donc Le Château absolu, ce que c'était que de vivre à Chambord, ce qu'était cet étrange château qui est posé sur des marais, sur des pilotis, qui prend l'eau de toutes parts parce que c'était un rêve italien de François Ier, mais qui, au lieu de mettre du marbre, a pris du tuffeau. Alors le tuffeau, c'est la craie de l'écolier.
Oui, oui, bah, tu vas pas me raconter l'architecture de Chambord.
Donc Chambord
prend
l'eau.
Parce que je te raconte que dans ce livre, il passe son temps, et je l'envie beaucoup,
à sillonner à cheval. Alors sillonner à cheval.
La forêt de Chambord. C'est bon.
Alors Xavier Patier, Le Château absolu, c'est à la table ronde, et ça date de 2004.
Un petit conseil que je vais vous donner, moi, c'est un livre court qui s'appelle chez Grasset, qui s'appelle « Morceaux cassés d'une chose » d'Oscar Kupfan, qui a obtenu d'ailleurs le prix de Flore avec Zénith Hôtel, et qui a totalement devancé l'âge d'écrire des souvenirs, puisqu'il a 30 ans et des poussières, et qui raconte tout dans ce livre, ses cuites, ses shoots, le viol qu'il a subi enfant, c'est en 3 pages, c'était un vrai choc, puis surtout comment et pourquoi il est devenu écrivain. Il recolle donc les morceaux cassés de sa jeune vie, et il annonce avoir renoncé à être un petit écrivain médiatisé pour redevenir barman, puisque c'est son métier à Paris. Et aussi, j'écris pour brûler une bonne fois ce que j'ai vécu. C'est bref, cinglant et très émouvant, morceau cassé d'une chose d'Oscar Kupfan chez Grasset. Olivia.
Moi, j'ai choisi un récit qui s'appelle « La mère morte » de Blandine de Caunes chez Stock. Blandine de Caunes est la fille de Benoît de Groult. Et elle raconte les derniers mois de Benoît de Groult, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et alors que Benoît de Groult, avec cet amour de la vie qu'elle avait, s'acharne, la fille de Blandine
qu'on
de Caunes...
Qu'on a vu dans son propre livre posthume, dont on a parlé
Les journaux d'Irlande. Bien sûr. Donc Benoît est très malade. Ses filles espèrent presque sa mort comme une libération, surtout pour cette femme qui avait milité pour le droit de mourir dans la dignité. Et à ce moment-là, c'est la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, qui meurt dans un accident de voiture. Et c'est un livre sur comment finalement Blandine va aider sa mère à mourir, mais c'est un livre sauvé par la vie.
Arnaud, pour finir.
J'ai un petit chef-d'œuvre absolu d'un écrivain que je connais de nom, mais je n'avais jamais lu, qui a publié des romans chez POL. Il s'appelle Mika Biermann. Il est d'origine allemande, mais il écrit en français. Et là, il publie chez un petit éditeur. C'est un roman de 90 pages. Hein, chez un petit éditeur de Toulouse, s'appelle Anacarsis. 3 jours dans la vie de Paul Cézanne. Et effectivement, on va passer 3 jours avec Paul Cézanne, qui va se promener dans la montagne, puisque on a enfin inventé. Et ça, c'est raconté aussi dans le livre. Très intéressant, la peinture en tube. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas se promener avec son chevalet dans la nature. Donc, on invente la peinture au tube qui permet d'aller à l'extérieur. Et donc, il se promène. Et là, il va tomber sur une femme. C'est 3 jours. C'est un fait divers. Et surtout, c'est écrit dans une langue absolument magnifique. C'est vraiment un livre. Je vous le conseille grandement.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Nelly Capriel-Lyon, Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspien-Jas et Arnaud Vivion pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française, et je les remercie, il y avait Cédric Chatelus, Nicolas Depagraf, Jérémy Kaufmann, réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, c'est le jeudi 16 janvier. C'est au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour 2 émissions. L'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. On parle de films dans une semaine, à dimanche prochain, sur France Inter, évidemment.